Un homme plongé dans la boue n'a pas besoin qu'on vienne lui faire des discours sur la saleté de la boue. Il a plutôt besoin d'une main compatissante à laquelle il peut s'accrocher pour sortir de la boue. Nous sommes cette main compatissante.
Père, nous voulons te dire merci parce que tu nous accordes ce temps pour que nous puissions étudier ta parole. La Bible dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu et nous voulons que toi tu nous enseignes. Au nom de Jésus-Christ, amen. Nous allons tourner encore une fois de plus nos Bibles dans Éphésiens chapitre 4. Mais cette fois-ci, nous allons lire le verset 14 et le verset 15. Et puis, nous tournerons nos Bibles par après dans Hébreux chapitre 5. Et nous lirons du verset 12 au verset 14. Éphésiens 4, 14 à 15, la Bible dit: ainsi, nous ne serons plus des enfants flottant et emporté à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. Hébreux chapitre 5, 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être de maître, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ce message porte aujourd'hui pour titre, et nous restons carrément dans le thème que nous avons commencé le dimanche passé. Et aujourd'hui, le titre du message, c'est « Comprendre pourquoi et comment devenir un chrétien mature. » Comprendre pourquoi et comment devenir un chrétien mature. Et j'aimerais par cet enseignement vous encourager à prendre très au sérieux la question de votre croissance et la question de votre maturité spirituelle. Et je répète, l'objectif que nous poursuivons à travers cet enseignement, c'est de vous encourager en tant que chrétien de prendre très au sérieux la question de votre croissance spirituelle, la question de votre maturité spirituelle. Ne banalisez pas cette question. Pour la simple raison que, à cause du puissant vent d'apostasie qui souffle sur notre génération, il est clair qu'il n'y aura que des chrétiens matures qui pourront finir victorieusement leur combat de la foi. Je répète encore, vous devez prendre très au sérieux, je ne dis pas au sérieux, je dis très au sérieux la question de votre croissance spirituelle. La question de votre maturité spirituelle. C'est-à-dire, vous devez vous demander, est-ce que réellement, moi je suis un chrétien mature ou je suis un enfant dans la foi? Pourquoi il faut faire un effort pour devenir un chrétien mature? C'est pour la simple raison que notre génération est traversée actuellement par un terrible vent d'apostasie. Et que si vous n'êtes pas un chrétien mature, vous ne réussirez pas de mener votre combat de foi jusqu'à une victoire totale. Vous serez détourné en cours de route et vous n'arriverez pas dans le royaume de Dieu. L'étude de deux textes que nous venons de lire, que ce soit Éphésiens chapitre 4, 14 et 15, ou que ce soit Hébreux chapitre 5, de 12 à 14, ces deux textes nous révèlent qu'il existe dans nos églises deux types de chrétiens. Un, nous avons les chrétiens immatures. Et deux, nous avons les chrétiens matures, les chrétiens mûrs. Un chrétien immature, c'est un chrétien qui ne grandit pas dans la connaissance des choses de Dieu. Et comme je l'ai dit dimanche passé, c'est un chrétien qui accuse un déficit profond dans la connaissance de la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous entendez la parole du royaume, vous devenez chrétien. Et j'ai toujours dit que le chrétien, c'est un homme ou une femme qui adhère volontairement à l'idéologie de Jésus-Christ et qui consent à mener une vie conforme à l'esprit et à la lettre de cette idéologie. Donc, à partir du moment où vous devenez chrétien, vous avez un choix. C'est comme une naissance. Quand un enfant naît, il doit grandir. Mais si l'enfant qui naît ne grandit pas, c'est qu'il y a un problème réel qui affecte sa santé. Et même son avenir pourra être compromis. Même chose, un chrétien immature, c'est ce chrétien qui, après avoir donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, ne fait pas un effort pour grandir dans la foi. Et il accuse un réel déficit dans la connaissance de la parole de Dieu, qui est l'unique nourriture capable de redresser ou de relever sa santé. D'après Éphésiens chapitre 4 que nous venons de lire, l'apôtre Paul met le doigt sur deux indices que l'on peut retrouver facilement chez un chrétien immature. Le premier indice, c'est que le chrétien immature, c'est un chrétien instable, un chrétien inconstant, un chrétien qui a la capacité de changer d'opinion, de changer de doctrine, mais de façon imprévisible. Si vous regardez autour de vous, un frère, une sœur, qui se dit chrétien ou qui est chrétien, mais si vous notez que dans sa marche de tous les jours avec Dieu, il est très instable, il est très inconstant, il est capable de changer d'opinion à un clin d'œil. C'est-à-dire, hier, il te disait que je suis un enfant de Dieu. Aujourd'hui, il peut te dire, mais ce n'est pas grave, tout le monde est enfant de Dieu. Hier, il croyait que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Aujourd'hui, il peut te dire, mais non, Jésus était un homme comme tout le monde. Hier, il fréquentait l'église chrétienne. Après-demain, tu peux le retrouver dans une mosquée et il te dit que mais Dieu aura pitié de tout le monde. Ce changement-là, cette instabilité-là, c'est un indice qui vous prouve que j'ai affaire à un chrétien qui est immature. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous ne serons plus comme des enfants, flottants. Quelqu'un qui flotte, c'est quelqu'un qui est instable. Un enfant, c'est quelqu'un qui est instable. Lorsqu'un enfant parle, vous sentez même l'instabilité dans son langage. Lorsqu'il prend des décisions, vous sentez l'instabilité. Il n'a pas de fondement solide enraciné dans la parole de Dieu. Alors, c'est le premier indice que nous devons prendre en note lorsque nous observons les chrétiens autour de nous. Est-ce qu'il est ferme dans la foi ou il est instable? Est-ce qu'il change continuellement d'opinion? Est-ce qu'il change continuellement de discours? Est-ce qu'il change continuellement d'église? Est-ce qu'il change continuellement de foi? Dès que nous notons ces choses chez cet homme ou chez cette femme, nous concluons malheureusement que c'est encore un enfant spirituel, même s'il ne commet pas de péché.
Je vais vous donner l'exemple de 70. La Bible dit que Jésus-Christ avait 12 apôtres et il a encore recruté 70 disciples. Il a envoyé ces 70 dans toutes les villes, dans tous les villages où il allait faire le ministère. Et il leur a demandé d'aller deux à deux, de prêcher la bonne nouvelle du royaume, de guérir le malade et de faire le ministère. Ces gens sont partis, ils ont annoncé la bonne nouvelle du royaume, ils ont guéri le malade et ils ont même chassé les démons. À leur retour, la Bible dit qu'ils disent au maître que « Seigneur, même les esprits mauvais nous ont été soumis en ton nom. » Mais lorsque nous passons dans Jean chapitre 6, à partir du verset 60, nous lisons quelque chose qui est un peu épouvantable. Nous apprenons qu'un jour, Jésus prêchait et il a parlé de son corps. Il a parlé de son sang. Et il a dit aux gens que c'est lui qui boira mon sang. Et les gens se sont imaginés que cet homme veut faire de nous ici des vampires. La Bible dit que ces gens ont dit « Cette parole est dure, qui peut la supporter ?» En d'autres termes, ces gens ont refusé d'accepter la prédication de Jésus tel qu'il l'avait prêché. Et à cause de cette prédication de Jésus-Christ, la Bible dit que plusieurs ont décidé de se retirer de lui. Mais pourquoi ces gens se sont retirés de Jésus-Christ? C'est tout simplement parce qu'ils étaient des bébés spirituels. Ils étaient des enfants dans la foi. La Bible dit que Jésus se retourne alors vers les autres. Et vous, pourquoi vous ne partez pas? Pierre dit, Seigneur, à qui irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Parce que, et je pourrais revenir sur ça en parlant de la connaissance, parce que le groupe de Pierre avait cru aux paroles de Jésus-Christ. Et parce qu'à cause de cette foi, ils ont connu que Jésus-Christ était le Saint de Dieu et ne se sont pas retirés. Ils sont restés des chrétiens solides, des chrétiens fermes, comme je vais en parler dans quelques minutes. Le deuxième indice, toujours dans Éphésiens chapitre 4, que l'apôtre Paul donne des chrétiens immatures, c'est leur naïveté. La Bible dit que nous ne serons plus comme des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse dans le moyen de séduction. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le deuxième indice que l'apôtre Paul nous donne ici, c'est cette naïveté, qu'ont certains chrétiens de se laisser facilement tromper et de se laisser facilement séduire pour embrasser des doctrines étranges sans pourtant s'en rendre compte, alors que même dans certains cas, les choses sont très claires dans les Écritures. Si vous regardez autour de vous, vous observez que vous avez un frère, une sœur, de bonne foi. Lorsqu'il entend une nouvelle doctrine venir sur le marché de la foi, directement il sort dessus. Lorsqu'il apprend qu'il y a un prophète qui est arrivé à Montréal Nord, il sort dessus. Lorsqu'il entend qu'il y a un prédicateur ou un docteur à côté, quelqu'un qui fait des miracles, il sort dessus. Même lorsqu'on lui dit des mensonges, il n'a pas le temps de vérifier si ce qu'on lui dit est vrai ou faux. Mais il est tellement naïf qu'il embrasse toutes les doctrines qu'on lui présente. Bien, parce que ce qui caractérise aussi le chrétien immature, c'est son déficit dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est que cet homme n'a pas développé l'esprit de discernement pour pouvoir passer au crible de la raison tout ce qu'on lui dit et détecter ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. À cause de cela, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de courir derrière tout. Oh frère, moi je vais là-bas. Frère, moi je vais ici. Frère, moi je vais là-bas. Peut-être même il le fait de bonne foi. Mais malheureusement, c'est une naïveté. C'est comme un petit enfant. Donc, je résume. Deux indices sur lesquels j'ai insisté ce matin. Un, l'instabilité. Et deux, la naïveté. Ma prière à Dieu, que vous ne soyez pas instable. Ma prière à Dieu, que vous ne soyez pas naïf. Ma prière à Dieu, que vous ne puissiez pas vous laisser tromper par n'importe quel diseur de bonnes aventures. Lorsque vous voyez quelqu'un venir auprès de vous, et c'est ça vraiment la vraie naïveté, parce que vous le voyez avec sa Bible, parce que vous le voyez réciter deux ou trois versets par cœur, parce que vous le voyez vous présenter même un certain zèle apparent, « Frère, Dieu est avec nous !» Bien, parce que vous le voyez parfois présenter même une certaine sincérité apparente, quand vous le gardez, vous trouvez qu'il est sincère, cela n'est pas une raison pour que vous puissiez embrasser ce qu'il dit. Prenez un temps de regarder à la lumière de la parole qu'est-ce que cet homme nous dit. Pourquoi? Comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est parce qu'il y aura beaucoup de faux prophètes. Il y aura un grand vent d'apostasie qui va souffler sur le monde. Et vous risquez de vous dérouter du chemin de la foi à cause de votre précipitation à embrasser n'importe quoi. Je vais vous donner un exemple. Il pourra peut-être vous faire rire. Et le but de cet exemple, c'est de vous faire comprendre que frères, sœurs, soyez vigilants, ne soyez pas naïfs. Dans une église comme celle-ci, il y a eu beaucoup de fidèles, hommes et femmes. Il y a eu une sœur qui priait, qui était mariée. Elle venait à l'église. Pendant qu'on prie, il y a eu aussi un frère qui était dans l'église. Mais toutes les fois qu'on prie, le frère crie « Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! » Et quand il crie « Alléluia », il y a parfois des gens qui paniquaient, parfois ils donnaient des prophéties. La sœur, là où elle était, juste en observant ce mouvement du frère et en suivant ses paroles d'Alléluia qu'il prononçait, cette sœur a compris que j'ai affaire ici à un véritable prophète, à un homme de Dieu mûr et mature. Qu'est-ce que la sœur va faire? La sœur va même quitter son mariage pour se marier avec ce prophète. Mais un jour, la sœur a mis le frère dehors. Et elle lui a dit, débarrasse-moi le plancher. Le frère a débarrassé le plancher. Il a appelé, mais pasteur, mon frère, quand je vais voir la sœur, c'est alors que la sœur me dira, mais cet homme-là n'est pas mon mari. J'étais dans l'assemblée, je l'ai entendu faire, Alléluia, je pensais que c'était un vrai chrétien. Et il a même brisé mon mariage, mais j'ai trouvé que c'était païen. Qu'est-ce qui a poussé cette sœur à briser son mariage pour se lier avec cet homme? C'est parce qu'elle a seulement été impressionnée par Alléluia. Frères, sœurs, faites attention. Je m'excuse, je vous parle des choses vraies comme elles sont. Ouvrez les yeux. Vous êtes des chrétiens appelés à être sages, mûrs. Ouvrez les yeux. Ce n'est pas tout le monde que vous voyez avec la Bible. Ce n'est pas tout le monde qui dit Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui prophétise. Prophétiser, c'est quoi? Il y a des gens qui racontent tout simplement. Jojo Media, il prophétise aussi. Même les miracles, que c'est quoi? Maman Hélène m'a parlé un jour d'un homme, j'oublie son nom, c'est un Québécois. Il passe même à la télévision, il est capable de vous appeler, il vous endort, vous vous dormez là. Et s'il prend la Bible aujourd'hui, monte une église, je pense que l'église sera pleine. Pourquoi? Parce que les gens vont dormir. Frère, développez votre esprit de discernement. La Bible vous dit que un puissant vent d'apostasie va souffler sur la terre. Et il n'y a que des chrétiens matures qui pourront résister à ce vent d'apostasie. Est-ce que quelqu'un peut donner une main d'acclamation pour moi? Par contre, un chrétien mature, c'est un chrétien qui a évolué dans la foi et qui a atteint son développement, son plein développement dans les choses de Dieu. C'est un chrétien stable, un chrétien ferme, un chrétien qui ne se laisse pas
emporté par les émotions. Ce qui a emporté notre sœur ici, c'était juste des émotions. Quand il voit quelqu'un crier ou quelqu'un pleurer, il dit « Aïe, aïe, là, c'est un homme de Dieu. » Non, non, ça c'est seulement des émotions. Vous n'avez pas fait travailler votre intelligence. Vous n'avez pas cherché à sonder la parole de Dieu pour savoir quelle est vraiment la volonté de Dieu pour vous et qu'est-ce que cet homme l'a fait. Donc, si vous êtes un chrétien mature, les émotions ne pourront jamais, jamais bouleverser votre foi ou même captiver votre attention. Et c'est un chrétien stable au point que peu importe ce qui arrive, que ce soit des choses favorables ou que ce soit des choses non favorables, ce chrétien ne peut pas bouger dans sa foi. Il a tellement développé son esprit de discernement au point que quand il regarde quelque chose, il peut comprendre soit ça, ça vient de l'enfer, soit ça, c'est une preuve à laquelle je suis soumis et je sais que je m'en sortirai, soit je sais que Dieu veut faire quelque chose dans ma vie. C'est un chrétien qui est très stable, mon frère, ma soeur. Un chrétien qui ne conditionne pas sa vie, qui ne conditionne pas sa foi à ce qu'il vit, à ce qui lui arrive dans la vie. Je vais vous donner l'exemple de Job. Job était un croyant stable. Et je vais vous dire, frère, que certaines détresses dans la vie peuvent vous faire changer d'opinion. Mais les choses n'ont pas été ainsi avec Job. La Bible nous dit que Job était un homme riche. Job était un bon père de famille. Job était un homme respectable, un homme respecté. Mais quelque chose de malheureux va arriver dans la vie de Job. Dans quelques fractions de minutes, sa vie va basculer. Job va perdre toute sa richesse. Job va perdre sa famille. Job va perdre ses enfants. Les trois grandes choses auxquelles tout homme s'accroche. Chaque homme s'accroche à sa santé. Chaque homme s'accroche à sa famille. Chaque homme s'accroche à son avoir, à sa richesse. Mais dans quelques fractions de temps, Job a tout perdu. Et comme si cela ne suffisait pas, Job était atrocement malade. Il pleure et il dit, il sent comme si sa peau se collait à ses os. Il n'y avait pas de morphine en ce moment-là. Sa femme va dire à Job, maudit Dieu et tu vas mourir. Job dit, non, moi je ne veux pas maudire Dieu. Ses amis vont même le culpabiliser. Job dit, non, moi je ne suis pas coupable. Job a gardé son intégrité vis-à-vis de Dieu, malgré les circonstances difficiles qu'il traversait. Mais pourquoi il a gardé cette intégrité? C'est parce que Job était un croyant mature. Le modèle que nous devons imiter. Peut-être que vous, il suffit juste de tomber malade. Vous quittez l'église. On a prié pour vous, pour avoir du travail. Comme le disait Amazon il y a quelques temps, on a prié pour que vous puissiez avoir le mariage. Vous n'avez pas de mariage. Pasteur, faites vite. Sinon là, Satan veut me posséder. C'est-à-dire, en d'autres termes, faites vite pour que votre Dieu réponde vite à la prière. Sinon, moi, je vais partir. Oh, les pasteurs souffrent. Il y a maintenant des ultimatums. Hein? Quelqu'un qui a commis son péché ailleurs. Il est tombé même dans un accident où il y a eu quelque chose qui lui arrive. Ah non, 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 je ne veux plus prier dans cette église-là. Pourquoi ma vie ne marche pas? Mais vous, vous savez pourquoi votre vie ne marche pas, frère. Hein? Vous savez pourquoi votre vie ne marche pas. Quelqu'un qui dort chez lui, qui a un songe, il revient, non, 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 moi je ne veux pas de cette église-là, je rêvais. Mais vous savez qui vous a aussi rêvé? Ça c'est quoi? C'est l'indice de l'immaturité. Mais un chrétien mature, c'est un homme stable, frères et sœurs. Peu importe ce qui arrive, que j'aie de l'argent, que je n'aie pas de l'argent, j'ai déjà cru que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie et je reste. Que j'ai le mariage, que je n'en ai pas, je sais que Jésus-Christ vaut plus que le mariage. Il vaut plus que la richesse. Il vaut plus que les enfants. Le mariage, je l'abandonnerai, frère. La richesse, je l'abandonnerai. Les enfants, l'épouse, l'époux, le travail, j'abandonnerai ça. Mais si je n'ai pas saisi Jésus-Christ,
c'est que je n'ai plus d'avenir, ma vie est totalement confuse.
Soyons des chrétiens matures, frères et sœurs bien-aimés, surtout par le temps qui court, soyons vraiment des chrétiens matures. Dieu a besoin que nous soyons ces chrétiens matures, ces chrétiens fermes, ces chrétiens qui ne peuvent pas trébucher devant n'importe quelle doctrine que les faux vont apporter dans le siècle présent. Question: pourquoi alors développer le souci de devenir un chrétien mature? Vous direz, mais pasteur, vous nous encouragez de devenir des chrétiens matures. Pour quelles raisons nous devons avoir ces soucis, puisque je veux que vous puissiez vraiment avoir le souci de devenir chrétien mature? Une seule réponse: le souci de devenir le chrétien mature est dû au fait que les temps sont mauvais. Lorsque vous parcourez plusieurs passages du Nouveau Testament, l'Esprit de Dieu prédit l'avènement de faux docteurs et de fausses doctrines, de faux docteurs et de faux enseignements. Dans l'épître de Pierre, 2 Pierre, chapitre 2, verset 1, l'apôtre dit ceci: qu'il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Verset 2: plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. L'apôtre Pierre prophétise ici et il dit à l'église, il vous dit frère, il vous dit à vous, il dit faites attention. De même que dans le temps passé, il y a eu des faux prophètes, dans les jours qui viennent, il y aura des faux docteurs, il y aura des faux enseignants, il y aura des faux prédicateurs de la parole. Amen. Et ces gens vont enseigner des doctrines étranges, des doctrines dangereuses, des doctrines mortelles. Mais ce qui est malheureux, c'est quoi? C'est que ces gens, ils attireront aussi vers eux des foules. Ma prière à Dieu, c'est que vous ne soyez pas dans la foule des gens qui vont suivre ces faux prophètes ou ces faux docteurs. Pourquoi? C'est par leur façon de présenter la chose, frère. Par l'habileté qu'ils ont. Ce n'est pas n'importe quel homme qui est habile, qui sait jongler avec les mots, qui sait jongler avec le verset, et qui va vous épater et vous allez le suivre sans chercher à savoir si ce qu'il dit est fondé sur la parole ou non. Dieu nous prévient dans l'épître de Pierre. Et il nous prévient aussi ailleurs, dans l'épître de Timothée. Il dit que, dans 1 Timothée 1, verset 7, que le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Trois choses: un cœur pur, une bonne conscience, une foi sincère. Je répète, un cœur pur, une bonne conscience, une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, c'est-à-dire quelques-uns n'ayant pas le cœur pur, n'ayant pas une bonne conscience, de toutes les façons, ce n'est que normal, lorsque le cœur n'est plus pur, lorsque le cœur est infecté par le péché, la conscience non plus ne sera pas pure. Parce que partout où vous allez aller, le diable va remener sur votre tableau, dans votre vision, les impuretés que vous avez commises. C'est que votre conscience aussi devient impure. Et votre foi n'est plus sincère. C'est de l'hypocrisie qui se mêle ici. Lorsque vous dites Dieu est saint, vous savez vous-même que vous n'êtes pas saint. Bien, la Bible dit que certains ministres de Dieu, entre guillemets, se sont égarés, se sont éloignés de ces choses. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont devenus de vains discoureurs. Et ils veulent être des docteurs de la foi, mais ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Étonnant, frère. Il y a des gens qui sont devenus des vrais discoureurs. C'est-à-dire, ils parlent, mais lui-même ne comprend pas ce qu'il dit là. Lui-même ne comprend pas ce qu'il enseigne. Mais ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui les suivent, frère. Hé, frères et sœurs, la Bible n'est pas facile. Si quelqu'un vous dit que la Bible est facile, il vous trompe. La Bible, c'est un grand livre et il faut une grande intelligence, une grande inspiration pour la connaître. Lorsque quelqu'un saute sur un verset et il commence à prononcer des discours vains, ouvrez les oreilles,
ouvrait l'esprit et cherchait à identifier quelle est sa vraie motivation. C'est ce que la Bible appelle. Hein? Ces gens, la Bible les appelle, ce sont les docteurs des insensés, hein? Les maîtres des ignorants, les conducteurs des aveugles. En d'autres termes, si vous vous laissez séduire par un tel docteur, c'est que vous êtes soit insensé, soit aveugle, ou même soit ignorant. Dieu a annoncé, voilà les choses qui vont arriver dans le temps de la fin. Il y a un autre texte biblique, toujours dans Timothée, mais cette fois-ci dans 2 Timothée chapitre 4. Le maître dit que je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Il est parfois de la recommandation de Dieu que les hommes de Dieu prêchent la parole, censurent, reprochent. Quand on vient vous reprocher, frère, ce que vous avez fait n'est pas bon. Voilà ce que la Bible dit. Ne vous fâchez pas contre celui qui parle. Parce que si vous fâchez contre celui qui parle, vous n'aurez pas enlevé ce verset de la Bible. Mais ce qu'on vous dit, c'est pour votre bien. Quand on vous dit, frère, repentez-vous. Frère, quittez le chemin du mal. Frère, quittez les fraudes. Dites-vous, Dieu m'a parlé. Et en acceptant cela, vous allez croître. Et vous allez devenir un chrétien mature. Un chrétien qui pourra mener le combat de la foi jusqu'à le remporter par des victoires spectaculaires. Mais la Bible continue et dit que car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Qu'est-ce que cela veut dire? Il va arriver un temps, et ce temps est déjà arrivé. Beaucoup de gens ne veulent pas entendre la vraie parole de Dieu. Quand vous lui dites, vivre dans le concubinage, c'est un péché. Dites que non, non, dans cette église-là, ils exagèrent. Mais malheureusement, comme il y a des églises dans tous les coins de rue, il va aller quelque part, on va le prendre impudique, il va faire le ministère. Hein? Adultère, il est en train de servir là. Voleur, il est en train de travailler là. Et il pourra attirer même d'autres personnes à venir. Et le pasteur, quand il va prêcher, qu'est-ce qu'il va faire? Il sait bien que cet homme qui donne de l'argent, il est adultère. Dans ma prédication, je ne peux pas citer le mot adultère. Vous savez ce qu'on a déjà eu dans cette église? Quelqu'un qui a refusé de se faire baptiser pour ses propres raisons. Mais toutes les fois qu'on enseigne sur le baptême, il dit que non, non, vous m'avez enseigné moi. En d'autres termes, on doit cesser d'enseigner sur le baptême à l'église. Parce que toutes les fois que vous citez baptême, lui dit que non, non, vous avez enseigné contre moi. Fin des fins, il a dû quitter l'église, ce qui est normal, l'instabilité des chrétiens immatures. Même chose, frères et sœurs. Mais lorsque ces docteurs qui savent quels sont les désirs des fidèles et qui sont des faux docteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Adultère, ils ne touchent jamais à l'adultère. Parce qu'ils savent que si je touche à l'adultère, je perds 1000 dollars. Eh bien, ils savent que j'ai beaucoup de femmes ici qui crient, qui font des choses. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Maman, alléluia, les femmes sont fortes. Et les gens, maman, vous êtes si cela. Papa, Dieu va vous bénir. Ils vont faire si cela. Hey, bénédiction, richesse, travail, des belles prophéties, ce sont des choses que les gens veulent entendre, des choses agréables. Et tout le message ne cherche que des choses qui sont agréables à l'oreille. Ça, c'est un indice des faux docteurs de fin des temps. Et le maître nous a déjà prévenu, il faut faire attention. Je réponds avec vous à la question de savoir pourquoi avoir le souci de chercher ma maturité spirituelle. C'est parce que Dieu ne fait pas des canulars, comme je vous l'ai dit dimanche passé. Si à travers plusieurs textes, l'Esprit de Dieu nous avertit que les derniers temps seront difficiles, frères, sœurs, prenez ça au sérieux. Dieu ne peut jamais réveiller l'attention de ses enfants sur un danger qui est imaginaire. Quand Dieu dit que les derniers temps seront caractérisés par une prolifération de faux docteurs et de faux enseignements et ils entraîneront beaucoup de gens, Dieu nous avertit pour que nous soyons préparés, pour que nous soyons des chrétiens matures, de sorte que quand ces choses vont arriver, que nous ne puissions pas tomber dedans. Regardez l'exemple de Pierre. Le maître lui a dit que Pierre, tu vas me renier trois fois cette nuit. Pierre a dit que jamais, je le jure, même si tous ces gens ici quittent, moi je serai avec toi. Et qu'est-ce que Jésus a dit, a fait? Jésus lui a collé un coq comme agent de sécurité. Il dit, coq, suis-le. Et le coq l'a suivi. Il est allé, on l'a chassé, le coq a suivi. Il a chassé, le coq était toujours là, il le regardait. Première fois, homme, tu étais avec Jésus-Christ, femme, ce n'est pas moi, le coq a capté. Deuxième fois, homme, tu étais avec moi, femme, tu mens, le coq a capté. Troisième fois, homme, tu étais avec lui, femme, tu mens, le coq a capté. Après, le coq a dit au maître, et il a révélé à Pierre, Pierre, je t'ai suivi. Cocorico, cocorico, cocorico. Ah là, Pierre a compris le langage, il s'est rappelé, il dit, ah, le coq me suivait, le coq me guettait, le coq me pillait. Et le coq a dévoilé le secret. Dieu merci qu'il s'était repenti et Jésus l'a restauré. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation? Frères et sœurs, les temps sont difficiles et nous devons faire un effort pour être des chrétiens matures. C'est à cette condition que nous allons réussir à résister à tous les vents d'apostasie qui est en train de souffler sur le monde. Comment maintenant devenir un chrétien mature? Ou que faire pour devenir un chrétien mature? Une simple réponse, il faut manger et il faut bien manger. Dans le domaine physique, lorsqu'un enfant naît, si cet enfant n'est pas nourri, c'est bien clair que son avenir est compromis. Il y a trois choses que je note ici. Si l'enfant n'est pas nourri, il va mourir. Si l'enfant est mal nourri, il va aussi mourir. Si l'enfant fait la grève de la faim, il va aussi mourir. Rentrons maintenant dans le domaine spirituel. Si dans le domaine spirituel de votre foi, vous n'êtes pas nourri, et la nourriture spirituelle pour nous, c'est la parole de Dieu. Si le jour où vous venez, vous donnez votre vie au Seigneur, vous n'êtes pas nourri, vous ne recevez pas la parole de Dieu, frères, sœurs, votre foi va disparaître. Que vous le vouliez ou pas, votre foi va disparaître et vous allez vous retrouver un jour en enfer. Deuxième cas, si vous êtes mal nourri, c'est-à-dire que les paroles que vous recevez, c'est du poison. Oh, nous sommes sur la période de grâce. Même si vous prenez des copines, ce n'est pas grave. Hein? Même si vous trichez un peu, mais ce n'est pas grave. Même si vous mentez, Abraham avait aussi menti. Frère, vous allez maigrir et vous allez finir par mourir. Je vais vous faire rire. Nous sommes à l'éternat. Il est arrivé un moment où on mangeait vraiment très mal. Et vous quittez le réfectoire et vous avez encore très faim. Mais qu'est-ce que nous on faisait pour calmer notre faim? On va cueillir les citrons. Nous cueillons les... Je vous dis qu'on mange des citrons, mais pour nous rassasier. Mais malheureusement, on ne faisait que maigrir tous. Hein? Donc, le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est que nous avons mangé, mais nous avions mal mangé. Et au lieu de devenir en santé, nous avons continué à maigrir sensiblement. Vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de manger des citrons chaque jour ici. Donc, eux, ils pensent qu'ils sont bien, ils vont augmenter le poids, mais non! Vous êtes en train de manger des citrons, de manger des choses aigres, des choses amères, nocifs pour votre vie spirituelle. Il y a aussi une troisième catégorie des gens qui font la grève de la faim. Quand vous êtes parent, il arrive le moment, je suis parent, je sais ce que je dis, où vous donnez, maman va allaiter le bébé la nuit, le bébé refuse. Vous faites tout, il ne prend rien. Qu'est-ce que vous allez faire? Ce bébé va perdre le poids, il peut finir même par mourir. Même chose sur le plan spirituel. Il y a des hommes qui font continuellement la grève de la faim spirituelle. Je m'explique. On est en train de donner la parole de Dieu. Lui refuse de venir écouter la parole de Dieu. Ancien janvier, c'est pour moi la mercredi. Mais vous refusez d'aller écouter. On fait tout. On met même la prière dans les chaînes téléphoniques. Frère, approchez-vous, c'est pour votre bien. Vous refusez. Vous tenez à l'écart. Bien-aimé, prenez note que vous êtes en train de faire la grève de la faim spirituelle. Et cette grève est dangereuse pour votre vie. Parce que comment est-ce que vous allez résister dans la foi si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu? Dieu vous donne des ministres de Dieu, des gens disposés pour vous aider. Pour vous aider à marcher dans les ABC de la connaissance de la parole de Dieu. Et vous, volontairement, vous trouvez des raisons et vous choisissez de refuser d'apprendre, vous êtes en train de faire la grève. Et je vous dis que vous vous mettez en danger. Vous mettez votre vie spirituelle en danger. Qu'est-ce qui va arriver le jour où le faux docteur va passer devant vous? Dès qu'il vous dit que non, non, écoutez-moi frère, quand nous nous prions, les gens doivent enlever les habits. Pourquoi? Regardez dans le jardin d'Éden, quand l'homme était pur, il n'avait pas d'habits. Il vous fait lire ça dans la Bible. Mais à cause de votre ignorance, vous sautez pour dire, ah, j'ai découvert la vérité. Frère, c'est écrit dans la Bible. Mais non, quand on enseignait la vision de Dieu ici, vous, vous avez choisi de faire la grève de la faim. Frère, arrêtez de faire la grève de la faim spirituelle. Arrêtez de faire la grève de la faim spirituelle. Approchez-vous pour apprendre la parole de Dieu. C'est salutaire pour vous. C'est salutaire pour votre foi.
L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre dit encore dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2, que désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel, afin que vous croissiez pour le salut, si vous avez écouté que le Seigneur est bon.
Il faut avoir ce désir, cette soif d'apprendre, frère. Ayez cette soif de connaître. Le drame que nous avons eu avec des docteurs qui ne comprennent pas ce qu'ils disent, c'est parce qu'ils n'ont pas cherché à étudier. Vous allez suivre un prédicateur qui prêche. Il faut bien suivre des prédicateurs. Il ne sait même pas que dans la Bible, il y a deux Jean, un Jean-Baptiste et le Jean, disciple de Jésus-Christ, qui a écrit l'Évangile. Il s'imagine que quand on parle des Jean, c'est Jean qui a baptisé Jésus, c'est Jean qui a écrit l'Évangile, c'est Jean qui a fait l'Apocalypse. Quelle erreur! Mais quand il crie, parce qu'il crie fort, vous dites que non, c'est Thomas de l'onction. Oh, frère, écoutez, vous m'excuserez, je vais te passer quelques minutes. Ce n'est pas crier fort qui est la preuve de l'onction.
Non.
Ou ce n'est pas en sautant, en titubant. Donc vous êtes en train de faire non. Là, on dit que non, non, il y a de l'onction. Ça n'a rien à voir avec l'onction. Vous savez, dans le temps ancien, laissez-moi encore quelques minutes, il y avait deux types de prophètes. Il y avait le prophète de la cour et le prophète du temple. Les prophètes de la cour, c'était des prophètes qui prophétisaient pour le roi. Comment ils faisaient leur travail? Le roi va dire, mais prophète Grégoire, je voudrais aller faire la guerre. Prophétise pour moi, si je vais avoir la victoire ou pas. Et là, il entre en transe. Hein? Il entre en transe. Quand il fait, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Mais il y a des prophètes du temple qui pouvait vous parler sans chercher à entrer en transe. Un prophète peut vous parler sans faire des gestes là, titubés, non. Il vous regarde, Dieu lui révèle quelque chose. C'est ce qu'on dit, le don de la parole des connaissances. Dieu met la connaissance sur le cœur où vous le voyez comme sur la table. Ah, frère, je vois ceci, je vois cela de vous. Mais quand vous désirez la connaissance, eh bien, vous allez connaître. Et lorsque vous allez connaître, Dieu va se révéler à vous. La Bible dit que la parole de Dieu habite abondamment en vous. C'est lorsque la parole va habiter abondamment en vous que vous serez alors un véritable chrétien mature. Et la vraie maturité nous provient de la connaissance que nous avons du mystère de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses à connaître dans la Bible. Mais je vous dis, vous devez tout faire pour connaître le mystère de Jésus-Christ. Paul dit aux Colossiens que je fléchis mes genoux pour vous. Je prie pour vous afin que Dieu vous enrichisse d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Virgule, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et tous les trésors de la connaissance. Vous devez connaître Jésus-Christ. Vous devez passer plus de temps. Parfois, il y a des gens qui cherchent à savoir, mais pourquoi on ne mange pas les poulets? Pourquoi on ne mange pas les cochons? Non, c'est bien. Mais passez plus de temps à chercher à connaître qui est Jésus-Christ. À comprendre que c'est un homme extraordinaire. Un homme qui est né sans péché d'une femme vierge. Un homme qui a vécu sans péché. Vous vous posez des questions. Pourquoi est-ce que cet homme a marché sur les eaux? Qu'est-ce que les prophètes ont dit de cet homme? Qu'est-ce que l'avenir dit de cet homme? Plus vous allez chercher à comprendre Jésus-Christ, plus alors vous allez avoir un fondement solide dans votre foi.
Je vous aimerais d'abord comprendre qu'il y a deux types de chrétiens, les chrétiens immatures et les chrétiens matures. Je vous ai ensuite fait comprendre que vous devez développer le souci de devenir un chrétien mature parce que la parole de Dieu nous a avertis de la prolifération des faux docteurs au milieu de nous et que si vous n'êtes pas mature, vous risquez d'être éventré par ces docteurs. Et troisièmement, je vous ai fait comprendre qu'est-ce que vous devez faire pour devenir un chrétien mature. Réponse, vous devez manger et vous devez bien manger. Vous devez bien manger la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu. Et qu'est-ce que vous devez connaître de façon particulière? Vous devez faire un effort particulier pour connaître qui est Jésus-Christ, connaître le mystère de la révélation de Jésus-Christ sur la terre. Et ainsi, vous serez alors un chrétien mature et que tous les délateurs ne pourront jamais avoir raison sur votre foi. Mature.
Un homme plongé dans la boue n'a pas besoin qu'on vienne lui faire des discours sur la sainteté de la boue. Il a plutôt besoin d'une main compatissante à laquelle il peut s'accrocher pour sortir de la boue.